Regard sur le judaïsme. Catherine Mann et Simon Martin. Événements naturels comme les récoltes, les vendanges, faits historiques ou bien ayant un sens théologique, les fêtes juives rythment la vie du peuple d'Israël depuis des millénaires. En exergue de son livre intitulé « Le judaïsme pratique fêtes et symboles », Hélène Hadas-Lebel a une pensée particulière pour sa mère, historienne et hébraïsante, ainsi que pour ses grands-parents. Rien de vraiment étonnant, et cependant, en faisant cela, Hélène Hadas-Lebel met le doigt sur l'importance fondamentale de la filiation dans la culture juive. Et quoi de mieux que les rites pour prolonger et cultiver la mémoire. Le mois dernier, nous avons vu le mois de Tichri avec la fête de Rosh Hashanah, fête anniversaire de la création du monde et qui marque l'année civile. Aujourd'hui, nous allons passer au mois de Kislev avec la grande fête d'Hanouka. Pour aborder ce thème des rites et des fêtes juives, j'ai à mes côtés Catherine Mann, bibliste. Bonjour Catherine.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Comme le veut la coutume, et là cela tombe bien puisque nous parlons des rites et des fêtes, je vous prierai, chère Catherine, de nous raconter une blague juive évidemment.
Vous savez, puisque vous parlez de la filiation, je pense à... Vous savez que pour se marier, on a toujours l'intermédiaire des marieurs ou des marieuses pour faire rencontrer les gens qui doivent bien se combiner. Alors je vous raconte une histoire de marieuse. La marieuse qui a chaudement recommandé Myriam à Isaac, qui accepte de la rencontrer. Alors, pendant leur rendez-vous, Isaac la regarde et il la trouve belle. Ils se parlent, le jeune homme la trouve aussi intelligente et intéressante. Elle semble très bien élevée, il est ravi. Et pourtant, alors au bout d'un moment, il lui dit « Dites-moi, je suis un peu perplexe, on m'avait dit que vous aviez un petit défaut ?» Mais je ne vous en trouve aucun. Ben oui, répond-elle, il est à l'école jusqu'à 5 heures.
Petit défaut qui deviendra grand.
Petit défaut qui est tout à fait interdit dans le judaïsme, il faut arriver vierge au mariage.
Eh oui. Alors passons, Catherine, si vous le voulez bien, au mois de Kislev. Alors ça ne suit pas tout à fait Tichri, il y a un mois,
non, il y a un mois entre les deux. Entre les deux, le mois de Marchevan, difficile à prononcer. Il n'y a pas de fête, mais Kislev, il y a Hanouka.
Hanouka, la fête de la lumière.
Non, a priori, Hanouka, ça veut dire la dédicace.
La dédicace.
C'est un mot juif qui veut dire la dédicace comme la dédicace du temple. On fait souvenir, on fait mémoire d'un événement historique au temps de l'occupation par les Grecs, et où le temple avait été tout à fait occupé par des divinités païennes, etc. Et il y a eu la révolte de toute une... Les Asmonéens, enfin les donc mieux connus sous le nom de Maccabées, qui se sont révoltés contre l'occupant grec, les Séleucides et Antiochos Épiphanes. Enfin, et ils ont vraiment fait la guerre pour récupérer le temple et retirer les idoles. Et donc, ils ont refait une dédicace, ils ont refait un autel à neuf et refait une dédicace. Et c'est au cours de cette dédicace qu'il y aurait eu un miracle. Le miracle, c'est qu'on a retrouvé dans le temple juste une petite fiole d'huile consacrée pour les lampes, comme on voit allumer la menorah, le chandelier, mais il y avait juste de quoi tenir un jour. Or, pour refaire de l'huile sainte, il faut 8 jours. Et donc, le miracle, c'est que la petite fiole d'huile aurait tenu 8 jours. Et donc, la fête de Hanouka dure 8 jours. Où on allume chaque soir une lumière de plus, jusqu'à premier soir une lampe, deuxième deux, troisième on allume 3, etc.
De là donc l'autre nom de fête des Lumières. Quoi.
Et du coup ça devient fête des Lumières. Et puis comme c'est une fête de victoire, encore une fois militaire, on est censé mettre cette lumière près d'une fenêtre pour qu'elle soit vue. On doit fêter, il faut que ça soit vu... à l'extérieur, enfin, un peu comme à Lyon, la fête des lumières sur les fenêtres, parce que ça vient un peu de... Et d'ailleurs, je sais pas, il y a aussi tout un symbolisme de fin de l'hiver, de début de l'hiver, plutôt comme Noël, finalement, l'entrée dans le... On est à peu près dans cette zone-là, hein, décembre, fin novembre, décembre. On entre dans la nuit noire, finalement, les jours les plus courts. Et c'est toujours là qu'on a envie de fêter la lumière. On fait pareil à Noël. Les illuminations commencent au début novembre, bientôt. Mais on a besoin de lumière pour lutter contre l'obscurité. Donc, c'est devenu la fête de la lumière. Mais au départ, c'est une fête... de la dédicace.
Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter, puisqu'on parle de lumière, vous avez évoqué le menorah, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Ah ben, c'est le chandelier qui est dans le temple, qui est demandé depuis le début de la Bible, déjà dans l'Exode, etc. Dès qu'on construit le temple, on demande qu'il y ait un chandelier, généralement à 7 branches, mais pas forcément. En général,
c'est pas forcé, ça, d'accord.
Ben non, ça va. Ici, il faut 8, puisque les 8 jours. Mais le plus courant, c'est 7 branches, effectivement. Mais il est très symbolique, il faut le lire dans la Bible. Je n'ai pas les références de mémoire, mais on voit bien comment il doit être construit, avec des bourgeons, plusieurs. Tout est symbolique. Hein, donc et puis, il y a aussi beaucoup de symbolique qu'on voit dans la Kabbale. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de chandeliers, mais le plus classique, c'est le chandelier à 7 branches, 7 étant le chiffre toujours de la perfection.
Alors pourquoi ce moment historique a été aussi important ? On a parlé du miracle, c'est un événement aussi donc de révolte.
Ah oui, ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas biblique en plus.
Ah.
On ne trouve pas dans la Bible hébraïque. Ces textes des Maccabées n'existent pas. Ils n'existent que dans la Septante et il n'a été repris que dans les textes grecs. Et les Juifs considèrent sont des apocryphes. Alors on le cite sous le manteau, quoi, parce que c'est des apocryphes. Et même dans la Bible, on ne parle pas du miracle. La légende elle-même, elle sort du Talmud. Donc ça n'a rien de précis. Alors pourquoi c'est resté dans la Bible non canonique ? Je pense parce que... cette victoire a mené à la victoire des Asmonéens, donc des Juifs qui ont obtenu 100 ans de dynastie juive, donc d'autonomie après les Grecs. On a vraiment cru retrouver un pays dans toute sa splendeur. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient repris le pouvoir, ils avaient repris leur indépendance par rapport aux grandes nations autour. Et ils ont scié eux-mêmes la branche sur laquelle ils étaient assis, ce qui est dramatique. Donc je pense qu'en général, les Juifs n'aiment pas trop qu'on se souvienne de cette belle période, parce que les derniers rois juifs de cette période-là ont eu la grosse tête, quoi. Ils ont voulu l'expansion maximum des territoires, toujours le rêve du grand Israël jusqu'à l'Euphrate, et depuis le Nil. Et pour ça, ils n'ont rien trouvé de mieux que de s'allier à Rome.
Ouais, mauvaise pioche, quoi.
Mauvaise pioche, et Rome qui a dit oui, on va venir vous aider. Et vous savez comment ça a fini. Donc il n'y a eu plus du tout de judaïsme et l'occupation de Rome. Donc c'est resté un peu apocryphe, mais le miracle, lui, il est important parce que c'est la victoire de Dieu dans son temple.
Oui, et de la lumière
Et de la lumière sur les ténèbres.
C'est un symbole, évidemment. Oui.
Ce qui fait qu'on mange.
Dans la pratique, justement, oui, comment.
On mange des beignets parce qu'ils sont dans l'huile. C'est le symbolisme de l'huile, ils sont cuits à l'huile. Et voilà. Puis alors, il y a la fameuse toupie de Hanouka, le jeu des enfants, une toupie à quatre faces, où il y a quatre lettres hébraïques sur une de chaque face, le Nun, le Gimel, le He, le Shin, qui résume une phrase qui est Nes Gadol Haya Hasham. Ce qui veut dire en français « un grand miracle a eu lieu là ». Ça rappelle le miracle. C'est une fête joyeuse, quoi.
Et cette fête, Catherine Mann, elle dure donc 8 jours, nous l'avons dit.
Voilà, donc la fin, ça commence le 25 qui se lève, et en général, ça déborde jusqu'au 2 ou 3 du mois suivant, qui s'appelle Tevet. Et puis c'est tout, il n'y a pas d'autre fête pour le mois de Tevet.
Eh bien alors, nous allons passer au mois de Shevat. Avec la fête Tout Bishevat, le nouvel an des arbres.
Oui, ça c'est une fête vraiment, alors pas biblique du tout. Hein. C'est plutôt comme vous disiez au début de l'émission, un rapport avec les cultures et la récolte des fruits. Mais en fait, à l'origine, c'était la date limite pour payer l'impôt sur les fruits. Parce qu'on prélevait la dîme sur toutes les richesses, finalement. Et à la récolte des fruits, ben, il fallait donner 10% de la valeur des fruits. Et le symbole, c'est l'abondance et la richesse de la production de fruits qui s'est faite après de l'importance, en fait, dans la diaspora. Parce qu'elle est le rappel d'Israël, terre originelle, où on a un peu le mythe de le climat était bon.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu étonnant que début février, on fête déjà quasiment
la récolte
des fruits.
Parce qu'en fait, c'est plutôt par rapport à la Terre Sainte. Et ça fait plutôt mémoire de la Terre Sainte et de la bénédiction. Vous savez, quand on est béni, on a beaucoup d'abondance d'argent, de biens.
Ça fait peut-être du bien sous la neige polonaise ou russe de fêter le printemps.
Mais en même temps, en Israël, le début du printemps, il est là, à cette période-là, et c'est déjà les amandiers qui fleurissent, on voit bien ça. Donc, on mange des fruits, une quinzaine de fruits différents pour fêter ça, plus 4 verres de vin, ça c'est sacré.
Eh bien Catherine, poursuivons avec la fête de Pourim qui se situe au mois Adar.
Bon, le mois suivant, oui, mois d'Adar. Alors Pourim, ça c'est une grande fête.
Célébrée le 14, courant mars donc.
Oui, mais très très souvent, les fêtes sont mises au milieu, c'est une question de lune. Hein, c'est toujours, je ne sais plus très bien comment c'est, nouvelle lune, ancienne lune, il ne comprend pas grand-chose. Mais le 14, hein, comme tout Bishvat, est au 15 Shevat, et Pessah est aussi au milieu du mois. Enfin,
alors Pourim, c'est une fête qui commémore un événement historique également.
Aussi peu historique que les autres, d'accord. Mais enfin, supposé historique, c'est-à-dire l'histoire vue au filtre de la légende, on n'a aucune preuve. Enfin, c'est le livre d'Esther. Le livre d'Esther se passe en Perse, sous Achashverosh, c'est-à-dire Assuérus, mais on n'a aucune trace dans la littérature perse, donc... À part le livre d'Esther, on peut aussi supposer que c'est un livre d'imagination, mais peu importe, il raconte une histoire qui se passe en exil en Perse.
Alors le livre d'Esther que vous avez, Catherine Mann, présenté lors de formation ici dans le diocèse, sur la Bible et la politique, donc est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire de ce livre d'Esther qui est assez importante?
Ah oui, ben c'est, en fait, l'important, c'est toujours la même. C'est l'histoire d'un peuple persécuté et qui arrive à une victoire, à surmonter l'ennemi. Alors, Esther, le mot Esther en lui-même veut dire caché. Elle s'appelait pas comme ça, j'ai pas ma Bible pour vous dire, mais enfin, bon, c'est un nom. C'est une très belle femme juive en exil qui vivait avec un oncle ou un cousin, on ne sait pas très bien, Mordechai, et... Elle est tellement belle que quand l'empereur Assuérus cherche une nouvelle épouse, vous savez, le harem, ça consommait beaucoup, il demande qu'on prenne dans le pays toutes les plus belles filles. Et finalement, il choisit Esther, qui ne dit pas qu'elle est juive. C'est pour ça que Esther, ça veut dire cachée. Alors, elle ne dit pas qu'elle est juive, mais elle est belle et elle est... assimilée, comme on dirait maintenant, elle se soumet à toutes les règles de la cour de Perse, et elle est la préférée, etc. Et tout ça, au début, il y a aussi le fait, l'histoire commence par le fait qu'il divorce de son ancienne première dame, parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il voulait, il voulait la montrer à ses militaires, et elle n'a pas voulu, donc il la chasse et il prend Esther, qui est la plus docile. Or, il se fait que pendant ce temps-là, il y a un certain Haman qui est responsable, haut responsable, dignitaire en Perse, et qui lui a pris tous les juifs en horreur, les juifs en exil, parce que la règle est qu'il met en place qu'on s'incline devant lui jusqu'à terre et qu'on se prosterne. Et un juif ne se prosterne que devant Dieu. Donc
problème.
Problème, l'oncle d'Esther, Mordechai, lui, quand il restait droit debout avec tout le monde aplati par terre autour, ça se remarquait. Donc les Juifs, Haman les a pris en horreur et a décidé, donc toutes sortes de stratagèmes, a demandé à obtenir la mise à mort de tous les Juifs en Perse. Et pendant ce temps-là, Mordechai, lui, il a fait juste le contraire. Il a entendu qu'il y avait des gens qui voulait tuer l'empereur et il est allé les dénoncer. Il a donc sauvé la vie d'Assuérus. C'est une petite parenthèse, mais qui a son importance. Parce que lui, il sauve son ennemi. Et donc, Aman obtient le droit de l'empereur, mais de tuer tous les juifs. Et pour trouver le jour où la mise à mort va être faite, il y a un système à l'ancienne, en fonction des astres. Enfin, il jette des dés. Enfin, des sortes de dés, on ne sait pas ce que c'est. Il jette le sort, si vous voulez. Et ce mot sort, ça se dit pour. Ou plutôt, comme il y a plusieurs dés, c'est un pluriel, donc ça fait Pourim. Il jette les dés et ça fixe le jour où tous les Juifs vont être mis à mort. Et le jour avant, qui est devenu donc le 13, le jour de jeûne qui précède Pourim, c'est le jeûne d'Esther, parce qu'elle se met à jeûner. Elle demande à tous les Juifs de jeûner pour lui permettre d'aller voir l'empereur, ce qui était toute une histoire, même quand on était sa femme. C'était toujours risqué, il pouvait vous mettre à mort sur... Et elle va donc voir, et elle obtient le salut des Juifs, d'autant plus qu'on révèle que Mordechai avait sauvé la vie de... Et finalement, c'est Aman qui va être pendu au gibet où il avait prévu de mettre Mordechai. Et alors, comble de tout, c'est que l'empereur leur donne le droit de tuer tous ceux qui avaient voulu les mettre à mort. Et du coup, bah, il y a deux jours, un jour supplémentaire qui s'appelle le Shushan Purim. Le Shushan, c'est Suze, le jour où on a rajouté pour mettre à mort tous les ennemis. Enfin voilà, donc c'est la fête, elle est curieuse parce que c'est la fête des sorts et elle symbolise vraiment la fête de la victoire sur ceux qui vous veulent du mal. Et c'est devenu en Israël moderne le symbole même, et même bibliquement, finalement, on dit que Haman est le descendant d'Amalek, c'est-à-dire le prototype de l'ennemi à abattre sur ordre de Dieu. On ne peut pas se laisser mettre à mort par ceux qui veulent vous laisser mourir, donc on doit tuer les ennemis d'Israël. On dit toujours que les Juifs d'aujourd'hui, là en Israël, sont des assassins, mais c'est curieux, mais c'est leur religion qui le demande. Il faut tuer les ennemis d'Israël. Alors, effectivement, c'est une fête nationaliste.
Oui, il n'y a pas cette miséricorde, on pardonne à nos ennemis
non.
Comme...
Pas celui-là, en tout cas. C'est Amalek, c'est vraiment ceux qui veulent vous éliminer et mettre Israël. Parce qu'en fait, il faut bien voir que c'est le Dieu d'Israël qui est visé. Parce que si les Juifs ne s'agenouillent pas devant Aman, c'est uniquement parce qu'ils s'agenouillent devant Dieu. C'est une affaire de religion, c'est pas une affaire d'état d'âme personnel.
C'est une très belle histoire en tout cas qui donc, mélange le courage avec une forme de compromission, c'est étonnant. Hein.
Ce qui est, oui, puisque tout ça se passe. D'ailleurs, c'est une fête où on ne chante pas les psaumes. Parce que le Hallel, les psaumes du grand Alléluia ne se chantent pas parce que ça, c'est un événement qui se passe en Perse. C'est en terre étrangère, et c'est quand même en exil, et c'est quand même... Donc c'est une fête ambiguë, mais qui devient l'équivalent d'une très grande fête de victoire. Alors Pourim, donc Esther s'est cachée, et du coup, c'est devenu une fête où on met des masques, vous voyez les masques et les costumes et les déguisements.
On se déguise donc, d'accord.
Et donc c'est devenu une sorte de carnaval débridé. Et quand même, c'est une fête de la joie, même si on ne chante pas les psaumes Alléluia, on est censé... comment dire, se réjouir. Alors, déjà, pendant les offices à la synagogue, c'est assez marrant parce que on lit le rouleau d'Esther. On lit le rouleau d'Esther. Et chaque fois qu'on dit Aman, on tourne des crécelles ou on tape des pieds. Donc, c'est très, très...
C'est très festif.
Très festif. C'est vraiment, on dirait, ouh, Aman. Mais là, c'est des crécelles qui font un horrible bruit. Par contre, on mange des beignets en forme d'oreille d'Aman. Je ne sais pas pourquoi, d'oreille, mais enfin voilà. Donc,
il y a des cadeaux également, des offrandes.
Ah oui, c'est vraiment la fête. C'est une espèce de carnaval débridé.
Donc du vin, j'imagine, également aussi.
Ah, non seulement imaginer, mais c'est la seule fête où c'est obligatoire. Enfin, obligatoire, pas au point où on verse le vin de force, mais c'est hautement recommandé d'être sous. À cette fête, la l'ivresse est un des signes d'une espèce de folie, mais rituelle. C'est le jour où il faut picoler.
Une fête pleine de sens, de profondeur et d'ambiguïté également.
Oui, oui.
Ouais. Catherine, bah poursuivons notre petit tour du calendrier avec le mois de Nissan, comme les voitures, et la fête de Pessah.
Alors Pessah, oui, avant, le mois de Nissan s'appelait aussi le mois d'Aviv, ce qui veut dire le printemps. Donc c'était au départ
la célébration du printemps.
Encore une fête agricole. Et c'était début de la moisson des orges, comme après Shavuot, c'est la moisson des blés. Mais donc c'est une des trois grandes fêtes de pèlerinage imposées par Moïse. Hein. Donc on va à Jérusalem et on fête le printemps. Mais aussi, elle a surtout gardé le sens, parce que Pessah, ça veut dire passer. Qu'est-ce qui passe alors? Eh bien, il faut se rappeler l'Exode, quand l'ange de la mort passe pour tuer tous les premiers-nés en Égypte, il fallait, si vous aviez sur le linteau de la porte un peu du sang de l'agneau sacrifié, l'agneau sacrifié c'est aussi la fête de printemps, c'est les premiers-nés du troupeau, mais on mettait du sang sur le linteau et l'ange de la mort passe au-delà du sang, il sait qu'il y a des juifs, ceux-là, on ne doit pas tuer les premiers-nés. Donc Pessah, c'est resté, là, on passe, et c'est vraiment le symbole de la libération d'Égypte.
Et c'est une fête que les chrétiens aussi connaissent forcément. Hein.
Alors comment ça se fait que la fête de sortie d'Égypte est devenue la fête de Pâques,
ouais.
Parce que je pense que la transmission se fait parce que on est aussi libéré d'une forme d'Égypte. Mais que le salut qu'apporte le Christ n'est pas le même que celui qu'apporte Moïse. Et d'abord, c'est universel. Alors du coup, il semble quand même que ce dont on est l'Égypte chrétienne, c'est le mal. Toutes les formes du mal, en général, y compris la mort, dit saint Paul. Tout ce qui est de l'ordre du péché universel, le Christ est censé représenter Moïse dans tout ça et faire sortir son peuple. Mais en même temps, c'est le Christ lui-même qui a institué ça, puisque l'institution de la Pâque, c'est au moment où il s'offre lui-même en sacrifice. Il reprend les rites.
Il reprend les rites et on comprend la filiation aussi entre la Pâque chrétienne et la Pâque juive, forcément.
Sauf que dans les évangiles, moi j'ai toujours compté les coupes de vin. Il y en a une avant, une après, la fraction du pain, et alors que dans la fête de Pâques, il y a toujours quatre coupes de vin. Donc, c'est pas d'une précision absolue dans les évangiles, mais on peut comprendre qu'il est question quand même de pain. Alors, de pain azim, ce qui est la raison pour laquelle l'Église catholique, en tout cas, a gardé pour la communion des pains azim.
Non levés.
Ce qui n'est pas le cas dans l'Église orthodoxe.
Alors c'est une des plus grandes fêtes, évidemment, juives. Comment se prépare Pessah?
Oh, c'est très compliqué. Parce que pour avoir... il y a toujours, encore une fois, la fête de printemps, il faut du renouveau complet. Et qu'est-ce qui doit disparaître? C'est le levain. Tout ce qui fait lever le pain, donc justement, de l'année précédente, doit avoir disparu des maisons. Alors, c'est ce qu'on appelle le grand ménage de printemps. Il faut tout nettoyer et sortir. Alors, tout ce qui contient du levain, ça peut être des pâtes, du pain, mais je pense aussi les boissons fermentées, tout ce qui contient du... Alors, si on a des victuailles et qu'on ne veut pas les jeter, il y a l'astuce de les vendre à un goy.
En tout cas, il faut s'en débarrasser, alors.
On les vend à un non-juif et on les rachète après Pâques. C'est des tractations un peu symboliques comme ça, mais il ne faut absolument plus aucune trace de levain dans la maison. Et la femme, évidemment, est responsable de ce grand ménage, et le rite veut que quand elle a fini le grand ménage, qu'on est sûr qu'elle a tout bien nettoyé, elle est obligée d'aller déposer du levain dans deux, trois petits coins de la maison pour que les enfants cherchent, comme les œufs de Pâques, et trouvent du levain. Et on va insulter la mère de famille parce que le ménage n'est pas bien fait. Alors vous avez trouvé que c'est un rite un peu cruel, moi je le trouve très méchant, mais c'est encore une fois symbolique parce que finalement, il ne faut pas finir. Il faut que le travail soit parfait, mais c'est un travail parfait n'est pas possible. Il faut se rappeler que
c'est
l'humain,
la mort, sinon, voilà, la perfection.
L'humain est imparfait, donc il faut. Alors pour la mère de famille, c'est une petite humiliation rituelle.
Pendant cette fête de Pessard, il y a évidemment le dîner familial que l'on
nomme
Cédère.
Ah oui, là aussi, c'est quelque chose. Mais pour le dîner, pour faire le dîner, il faut aussi que la vaisselle n'ait rien touché qui rappelle le vin. Donc il faut. Les plus riches achètent carrément un service pour Pâques, qui ne touche rien de l'année, qui est planqué. Alors, les moins riches, il faut qu'ils ébouillantent ou qu'ils fassent cuire tous les pots, les machins pour enlever tout. Il faut cachériser, comme on dit, être sûr qu'il n'y a pas. Donc, c'est quand même. Les jours de préparation pour la ménagère, c'est quand même assez dur, hein.
Alors, il y a des aliments que l'on retrouve pendant ce céder, des aliments qu'on va retrouver aussi dans notre fête de Pâques chrétienne. Je pense à l'agneau.
Oui.
Et puis aux œufs durs également, qui ont fait penser, oui, si vous, oui, font penser, oui, aux œufs de Pâques.
Oui, oui, parce qu'il y a une idée de résurrection, effectivement, de ressusciter par au-delà de la mort. Les œufs, on a gardé. L'agneau n'a pas tout à fait le même sens, parce que c'est l'os. On dit quand même que c'est plus l'os de la cuisse, vous voyez, l'os de Jacob qui quand dans son combat avec l'ange, il y a toute la symbolique du nerf sciatique qu'on ne doit pas manger, qu'on doit enlever. Donc il faut que ça soit cette partie-là de l'animal. Et à part ça, c'est tout des herbes amères, hein, le céleri, la laitue, enfin toutes sortes de légumes, mais qui doivent avoir un goût d'amertume pour rappeler le malheur. Et puis il faut surtout le haroset, une espèce de purée pâte de fruits secs, de dattes et de confiture de pommes et tout ça, parce qu'il faut que ça soit compact comme du mortier, pour rappeler le mortier des briques, quand ils étaient obligés de faire la construction. Donc l'amertume et le mortier sont là pour rappeler.
Tous ces symboles qui rappellent.
Tous les symboles de la souffrance. Non, pas de l'exode, de la souffrance en Égypte.
De la souffrance en Égypte, puis du départ.
Et de la libération.
De la libération.
Et alors, à côté, il y a un bol d'eau salée. Alors, moi, je pensais que c'était les larmes versées, donc par les. Mais c'est les larmes versées pour les Égyptiens. Parce qu'ils sont tous mis à mort, les enfants, puis l'armée qui suit est mise à mort. Alors, il paraît que c'est le. Je me suis moi-même étonnée en entendant ça, parce que, effectivement, c'est quand même des larmes de compassion.
De compassion, du coup.
On ne ricane pas des ennemis mis à mort.
Catherine Mann, notre émission touche à sa fin. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la fête de Pessard, donc une des fêtes les plus importantes dans la religion juive.
Oui, parce qu'il n'y a pas que le repas, il y a aussi tout un rituel qui se fait à la maison, pas seulement à la synagogue, le rituel à table, où les enfants ont un grand rôle et où on récite beaucoup de choses, où il y a.
Je vous propose d'y revenir le mois prochain, parce que le prochain, nous n'avons pas fini les fêtes de l'année juive, donc nous poursuivrons sur ce thème. Catherine Mann, peut-être juste avant de partir, auriez-vous un livre à nous conseiller pour nos auditeurs afin d'approfondir cette question ?
Eh bien, le petit, il n'est pas tout à fait petit, mais c'est un livre simple qui s'appelle « Le judaïsme, histoire, fondement et pratique de la religion juive ». De Quentin Ludwig comme Ludwig van Beethoven, aux éditions Erol. Donc c'est un petit livre de pratique, mot par mot, chaque chose est expliquée, comme un dictionnaire assez simple.
Catherine Mann, merci beaucoup, et au mois prochain.
Au revoir à tous.